Après avoir aimé les siens, il les aima jusqu'au bout. Et le Christ a voulu donner aux siens donc une preuve, le gage de son amour. Et pour cela, donc, il a voulu souffrir la passion. Saint Augustin explique que ce bois, le bois de la croix, d'où il était élevé entre ciel et terre, était une chaire de vérité, du haut de laquelle il enseignait. Il a enseigné. Et il a enseigné en nous livrant sept paroles, les sept paroles du Christ en croix. Je voudrais rapidement, en introduction, vous les passer en revue. Les trois premières paroles ont un point commun, c'est qu'elles ne sont absolument pas repliées sur lui-même, sur sa douleur. Il a tout de même énormément souffert, perdu beaucoup de sang, et on sait combien c'est une souffrance douloureuse, notamment pour les nerfs, pour les articulations, ça asphyxie, il y a tout. Hein, c'est véritablement un supplice barbare. Et pourtant, les trois premières paroles qu'il profère ne sont absolument pas repliées sur sa douleur, mais au contraire, sont ouvertes sur les autres. La première, il pardonne au monde. Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous voyez, ce n'est pas sa douleur qui le préoccupe, mais c'est notre péché, notre faute. Il pardonne au monde. Ensuite, il béatifie le brigand. C'est la première canonisation. Elle est infaillible. La première conquête de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Il y en a au moins un, c'est lui. C'est sûr. Donc, il pardonne au monde, il béatifie le brigand et il pense à nous donner sa mère. Femme, voici votre fils, et à Jean, voici votre mère. Donc, trois premières paroles qui ont en commun de ne pas replier sur lui-même, mais de penser d'abord aux autres. Ensuite, il y a deux paroles qui servent à exprimer l'intensité de sa douleur. Après avoir pensé aux autres, la souffrance est telle que nous rapprochons de la neuvième heure, de l'heure des ténèbres, de l'heure de l'agonie finale, et ces dernières paroles sont, après avoir donné son testament d'amour aux hommes, sont pour lui et Dieu, et son Père. La quatrième parole, donc, c'est « mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» C'est sa première plainte, sa première agonie, surtout morale, d'ailleurs, qui traduit la déréliction de son âme. Ça doit nous aider pour toutes les... Je veux dire, le cafard, c'est plus que du cafard. À travers les épreuves, l'abandon apparent de Dieu, Dieu qui se tait, comme lui s'est tu d'ailleurs, face à Pilate et aux outrages. Il ne dit plus Père, comme il a dit tout au long de la dernière scène, des derniers jours, mais il dit mon Dieu, mon Dieu. Vous voyez ? Alors bien sûr, il reprend un psaume, le psaume 21, que à l'office du bréviaire romain, nous récitons le vendredi, justement, vendredi matin. Mais il ne dit plus « Père », mais « Mon Dieu, mon Dieu ». Il y a vraiment cet abandon, cette déréliction, cet abandon que nous pouvons ressentir dans nos vies, bien sûr, mais le Christ l'a pris sur lui aussi. La cinquième parole, c'est « Sissio, j'ai soif », qui traduit d'abord sa souffrance physique, et on va l'abreuver de vinaigre et de fiel, et puis sa souffrance morale, la soif de son désir de sauver le monde. Enfin, les deux dernières paroles, Eh bien, sont donc les toutes dernières, juste avant son cri final, dans lequel il remet son âme, son esprit, son âme immortelle, son âme humaine. Et les deux dernières paroles expriment davantage la maîtrise sur les événements et la sérénité qu'il a pu reconquérir, en quelque sorte. Donc la sixième parole, c'est « Tout est consommé ». Alors, j'insiste un peu davantage sur cette parole « Tout est consommé ». Qu'est-ce qui est consommé ? Alors bien sûr, et d'abord, toutes les prophéties. Toutes les prophéties qui étaient ordonnées à la venue du Messie sont réalisées. Et de manière ô combien plus sainte, plus digne, plus divine que la manière que l'on pouvait imaginer, que Israël avait pu imaginer. Là, il faut lire le chapitre 53 du livre d'Isaïe, qui s'est tout de même écrit plus de 7 siècles, presque 7 siècles et demi, avant la venue du Christ. Voici ce que dit donc Isaïe. De même que beaucoup ont été dans la stupeur en le voyant, tant il était défiguré, son aspect n'était plus celui d'un homme, ni son visage celui des enfants des hommes. Ainsi il fera tressaillir des nations nombreuses. Devant lui, les rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté, et ils apprendront ce qu'ils n'avaient pas entendu. On peut penser aux rois de Jérusalem qui préférèrent porter une couronne d'épines, enfin qui ne voulurent pas porter une couronne de joyaux d'or. Qui a cru ce que nous avons entendu, et à qui le bras de Yahvé a-t-il été révélé? Il s'est élevé devant lui comme un frêle arbrisseau, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni forme ni beauté pour attirer de regard, ni apparence pour exciter notre amour. Il était méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et familier de la souffrance, comme un objet devant lequel on se voile la face, en but au mépris, nous n'en faisions aucun cas. Vraiment, c'était nos maladies qu'il portait, et nos douleurs dont il s'était chargé. Et nous, nous le regardions comme un puni, frappé de Dieu, humilié. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos péchés, broyé à cause de nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix a été sur lui, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun de nous suivait sa propre voie. Et Yahvé a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. On le maltraite et lui se soumet. Il n'ouvre pas la bouche. Semblable à l'agneau qu'on mène à la tuerie, ou à la boucherie, ça dépend des traductions, et à la brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'ouvre point la bouche. Il a été enlevé par l'oppression et le jugement, et parmi ses contemporains, qui a pensé qu'il était retranché de la terre des vivants, que la plaie le frappait à cause des péchés de mon peuple? Il a plu à Yahvé de le briser par la souffrance, mais quand son âme aura offert le sacrifice expiatoire, il verra une postérité, il prolongera ses jours, et le dessein de Yahvé prospérera dans ses mains. À cause des souffrances de son âme, il verra et se rassasira. Parce qu'il a livré son âme à la mort et qu'il a été compté parmi les malfaiteurs et lui-même a porté la faute de beaucoup, il intercédera pour les pécheurs. Vous voyez, j'ai lu presque tout en entier, mais c'est ô combien clair que la prophétie est réalisée de manière éminente, lumineuse. Mais ce ne sont pas seulement les prophéties qui sont réalisées et accomplies, bien plus, plus profondément, plus secrètement, c'est la volonté du Père. L'œuvre du Père qui avait été donnée au Messie, l'envoyé de Dieu, loin de Dieu, à réaliser. Voilà ce que dit Saint Jean, enfin le Christ en Saint Jean, chapitre 10, verset 17. « Mon Père m'aime parce que je donne ma vie pour la prendre de nouveau. Personne ne me l'a enlevée, mais je la donne de moi-même. » J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la prendre de nouveau. tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. Donc son commandement, c'est bien cela, de donner sa vie avant de la reprendre. Également, saint Paul, aux Hébreux, chapitre 10. Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Les sacrifices de l'Ancien Testament n'étaient que des figures. C'est pourquoi le Christ, entrant dans le monde, dit à son Père, « Vous n'avez voulu ni sacrifice ni offrande, mais vous m'avez formé un corps. Vous n'avez agréé, ni les holocaustes, ni les offrandes pour le péché. Alors j'ai dit, voici que je viens au Dieu pour faire votre volonté. » Comme par son corps, dans son corps. Il n'y aura plus d'agneau de substitution, il est l'agneau. Donc, à travers la passion du Christ, c'est le dessein même du Père qui est réalisé. Dessein donc de sauver le monde par l'obéissance de Jésus et d'accomplir donc l'œuvre. Voici ce que dit encore saint Paul aux Hébreux, chapitre 5, verset 7 et suivant. J'utilise le père l'abbé Journet, enfin, le cardinal Journet. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, donc quand il était ici-bas avec sa chair, ayant offert des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, avec un grand cri et des larmes, ayant été exaucé à cause de sa révérence, a appris, bien qu'il fût fils, par les choses qu'il a souffertes, l'obéissance, et qui a ainsi consommé, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré grand prêtre, selon l'ordre de Melchisédek. Donc il est grand prêtre, prêtre et sacrificateur et victime qui s'offre dans l'holocauste parfait, le sacrifice parfait, qui est le sacrifice du calvaire, le saint sacrifice de la messe aussi. Donc la voie du salut est ouverte, d'où cette première conquête, le Dismas, le bon larron, et puis ensuite le centurion, et tous ceux qui suivront. La voie du salut est ouverte, indiquée clairement et définitivement. La vieille loi est achevée pour être scellée dorénavant, et achevée dans la nouvelle alliance. Le sang de l'agneau qui est maintenant... Le sang de la Nouvelle Alliance, l'ancienne étant caduque. Il faut le rappeler aujourd'hui. On peut rapprocher cette parole de « tout est consommé » des saints qui imiteront Jésus-Christ. Je pense à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la veille de sa mort, le 29 septembre 1897. Donc avant de mourir, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dit, c'est une de ses dernières paroles, « Novissima Verba », « J'ai tout dit, tout est accompli ». C'est l'amour seul qui compte. Tout est consommé, donc c'est cela. C'est non seulement les prophéties, mais l'œuvre du Père et l'ouverture du ciel. Alors une fois l'œuvre accomplie, eh bien, la dernière parole, « Père, entre vos mains, je remets mon esprit. » Puisque tout est accompli, notre Seigneur peut penser à lui, enfin à lui, à passer la Pâque, le passage, remettre son âme à son Père, son âme humaine, son âme immortelle. Et par ce passage, vous voyez la souffrance, le mal qui était absurde, sur lequel d'ailleurs les païens, les stoïciens, enfin les philosophes, achoppaient et achoppent encore, eh bien la souffrance, le mal, prend un sens, devient chrétien, pour mériter la paix infinie et triompher du mal. C'est le mystère vraiment de la rédemption, de la souffrance rédemptrice. Donc, et alors c'est très beau aussi d'imaginer, de contempler comment Dieu remet son âme à Dieu, puisque c'est la personne du Verbe incarné qui remet son âme humaine, son esprit à Dieu. Et cela dans un grand cri. Et après ce grand cri, eh bien, il ne reste plus rien que ce corps meurtri, exténué, complètement vidé de son sang par ce coup de lance qui est le premier coup mortel que le Christ ait reçu. De tous les enfin, séparément, tous les coups qu'il a pu recevoir, aucun n'est mortel. Immédiatement, en tout cas. Mais le seul qui reçoive, qui soit mortel, hein, on vous perce le cœur, c'est fini, hein, eh bien, il le reçoit après sa mort. Preuve hein, qu'il a bien... C'est lui qui a donné son âme, qui a déposé sa vie, et non pas les hommes. Et ce qui établit, d'où la stupeur des soldats qui n'ont jamais vu un crucifié mourir ainsi. Normalement, il faut l'achever avec un, en lui brisant les jambes pour qu'il perde, il puisse plus respirer, et alors il tombe. Et le centurion se convertit. Ça, c'est pas humain. Il était habitué, il avait dû déjà en crucifier quelques-uns. Donc, il sait comment ça se passe. Donc, il ne reste plus que ce corps meurtri, exténué, vidé de son sang par le Sacré-Cœur, et qui quitte alors les bras de la croix, pour les bras de sa mère. Là, Jésus nous a donné sa mère sur la croix, mais dans les bras de la mère de Jésus, il y a Jésus. Et là, il faut s'arrêter, bien sûr, pour contempler ce mystère d'amour et de charité de Dieu pour nous, et de souffrance aussi. Alors, il faut contempler, là aussi, ça peut pas se faire comme ça, mais il faut contempler Jésus, hein, qu'elle reçoit dans ses bras, qu'elle pleure, qu'elle soigne, par des gestes tout maternels, pour l'essuyer, panser ses plaies, et l'ensevelir dignement. Vous voyez, c'est la naissance du culte catholique, hein, aussi. De la liturgie catholique. Ce sont les soins de la Vierge Marie, des Saintes Femmes, de Saint Jean, de Saint Joseph d'Arimathie, de panser les plaies du Christ, de l'embaumer, de mettre des aromates, de soigner, de l'ensevelir dans le linceul. Voyez. Tous ces symboles, enfin ces gestes, on les retrouve dans la liturgie. Voyez. Vous savez que l'autel est un autel de pierre pour symboliser le sépulcre de pierre dans lequel le Christ a été enseveli. Les nappes sont le linceul sur lequel repose le Christ, qui est immolé de manière non sanglante à la messe. Il y a 5 croix gravées sur l'autel pour marquer les 5 plaies du Christ, hein, les mains, les bras et le côté. Et il y a aussi un autre symbole, c'est connu, je pense. C'est, par exemple, vous savez que dans l'Ancien Testament, donc il y avait ce temple avec 7 chandeliers. Voyez. Et bien maintenant, dans nos autels, il y a le chandelier du milieu qui est remplacé par la croix. Et ça vient de là. Ça vient dorénavant, la synagogue est balayée, hein, et la croix triomphe. Voyez. Il y en a toujours les 7 cierges, mais le milieu, c'est la croix. Ça vient de là. Il y a le voile du tabernacle qui remplace le voile brisé du temple. Pensez aussi à la solitude de Notre-Dame. Notre-Dame est la seule à n'avoir pas perdu la foi, ni l'espérance, ni la charité. Et on se demande comment, humainement. C'est une interrogation tout à fait humaine, j'en conviens. Peut-être même déplacée, mais elle est la seule à avoir compatit, et non seulement fait œuvre de compassion, Saint Jean, Sainte Marie-Madeleine le faisait, mais de co-rédemption. Elle percevait, peut-être obscurément, je ne sais pas, mais qu'il était Dieu, ça n'a jamais fait l'ombre d'un doute pour elle, et donc il reste maître, ce n'est pas fini. Et sa méditation, son attention, bien sûr, à l'enseignement du Christ, elle a hâté, on dit, hein, par sa prière le samedi saint jusqu'au dimanche matin, elle a hâté l'heure de la résurrection. Le Christ n'a pas passé 3 jours entiers dans le sépulcre, mais 3 jours à peine, parce que la Vierge Marie accomplissait l'œuvre de co-rédemption. Oui. Donc elle comprenait elle était la seule à comprendre que le mal était vaincu, que l'œuvre de rédemption, du salut, de son propre salut, puisqu'elle avait été préservée du péché originel en prévision de la mort, de l'œuvre rédemptrice, eh bien, était accomplie. Voilà. Accomplie par le Sacré-Cœur, par exemple, qu'elle avait vu transpercer avec le sang et l'eau. Puis vous pouvez bien sûr contempler le voile de, enfin, les ténèbres, les sépulcres qui s'ouvrent, le voile du temple qui est déchiré, les prêtres qui, malheur à nous, nous avons tué le juste. Vraiment, cet homme était le Messie, le Fils de Dieu. Qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait? Et que faisons-nous, nous-mêmes, à crucifier Jésus-Christ encore? Par nos péchés, par nos désordres, par nos infidélités. C'est aussi le, c'est pas que pour eux il y a 2000 ans. C'est de tout temps. Donc voyez un peu, certainement, cette méditation à mener personnellement des sept paroles du Christ que j'ai rapidement passées en revue et de Notre-Dame au pied de la croix. Je voudrais continuer dans une deuxième grande partie en essayant de répondre peut-être à quelques questions qui peuvent vous caresser l'esprit concernant justement le mode, la manière tout de même que le Christ a voulu, que Dieu a voulu utiliser cette passion du Christ, que dont saint Augustin nous dit que pour guérir notre misère, il n'y avait pas de mode ou de mode mieux adapté que la passion du Christ. Essayons de contempler maintenant, en 20 minutes, un quart d'heure, de contempler maintenant combien cette passion du Christ est vraiment le moyen le plus adapté à la fin poursuivie, qui est l'œuvre du Père à accomplir et le salut de nos âmes. Saint Thomas d'Aquin, vous me voyez venir, donne 5 raisons, ça faisait longtemps, de convenance, qui sont très belles également à méditer, et c'est pour cela que je vais vous les donner. 5 raisons de convenance pour expliquer combien la question c'est, il n'y avait pas de moyen mieux adapté pour libérer le genre humain du péché, du mal, que la passion du Christ. Petit 1. Première raison que saint Thomas d'Aquin donne de cette convenance plus belle que de cette adaptation de la passion à la fin poursuivie. Voilà ce qu'il dit. Premièrement, par la passion du Christ, l'homme a connu combien Dieu l'aimait, et il fut ainsi provoqué à aimer Dieu en retour. Vous voyez, nous retrouvons vraiment le motif de l'incarnation. En voyant que Dieu se faisait petit enfant, nous allions l'aimer de retour. Eh bien, nous retrouvons ce même motif à la fin de la vie du Christ. Et tout se tient. C'est en cela que réside la perfection du salut de l'homme. Aimer Dieu en retour. Et c'est toujours en retour, car l'amour de Dieu est toujours premier. Aussi saint Paul écrit aux Romains, « Dieu prouve son amour pour nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, le Christ est mort pour nous. » C'est avant toute justification. Deuxième raison. Par la passion, le Christ nous a aussi donné un exemple d'obéissance, d'humilité, de constance, de justice et des autres vertus qui sont nécessaires au salut de l'homme. Saint-Pierre le souligne. Le Christ a souffert pour vous, vous laissant un modèle afin que vous suiviez ses traces. On retrouve là encore, nous n'atteindrons pas la gloire de la résurrection si nous ne passons pas par la passion et la souffrance de Jésus-Christ. L'Angélus. Troisième motif. Le Christ, par sa passion, a non seulement libéré l'homme du péché, mais il lui a en outre mérité la grâce de la justification et la gloire de la béatitude. Donc c'est bien sûr le ciel qui nous est ouvert, et ce n'est pas rien. Quatrième raison, l'homme se sent également poussé par nécessité à se garder pur de tout péché. Suivant le mot de saint Paul aux Corinthiens, vous avez été achetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu en votre corps. Et il continue en disant, ne laissez pas votre corps corrompu à de vils usages. Enfin, je ne sais plus très bien comment il le dit, mais vous avez été racheté à grand prix. le prix du rachat, la rançon payée à notre place par Dieu lui-même. Alors n'allez pas faire de vos corps des objets infâmes. Cinquième raison, la dernière, l'homme a atteint à une plus haute dignité. Nous retrouvons la dignité de l'homme ici. Vaincu et trompé par le diable, l'homme devait le vaincre à son tour. Ayant mérité la mort, l'homme devait aussi, en mourant, l'emporter sur la mort, triompher du diable qui l'avait fait chuter et atteint de mort. « Rendons grâce à Dieu, écrit saint Paul aux Corinthiens, car il nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Mort, je serai ta mort. » Donc voyez cinq belles raisons qui expliquent combien la passion du Christ est le moyen le plus adapté à la libération du genre humain. Mais votre attention, toujours renouvelée, peut également se poser la question plus précisément, non seulement de la rédemption par la passion, par la souffrance, mais pourquoi ce supplice de la croix en particulier ? Pas seulement la flagellation, tout le chemin de la croix, les crachats, les outrages, la mort même, mais plus précisément, pourquoi ce supplice de la croix ? Alors, malheureusement, le temps étant compté, je ne prendrai que l'objection 1 de l'article 4 de la question 46, de la tertia pars de saint Dominique. Et vous verrez, c'est très... Première objection. Le Christ devait-il subir le supplice de la croix ? Mais non, il ne semble pas. Car la réalité doit répondre à la figure. Les figures de l'Ancien Testament devaient annoncer la réalité. Or, dans les sacrifices de l'Ancien Testament, qui tous étaient la figure du Christ, nous sommes d'accord, l'agneau pascal, les animaux étaient mis à mort par le glaive et brûlés ensuite par le feu, immolés. Donc, le Christ ne devait pas subir le supplice de la croix, mais plutôt celui du glaive et du feu. C'est pas bête comme objection. Vous voyez, saint Thomas d'Aquin se pose des bonnes questions quand même. Et il répond au problème. On dit que Voltaire lisait les objections de la somme théologique pour coincer les prêtres, les jésuites, par exemple, surtout. Et puis voilà, ça suffisait. Ce qui est la mauvaise foi, bien sûr. Réponse. Il convenait, alors saint Paul, l'argument d'autorité c'est la révélation, et saint Paul qui nous dit « Le Christ s'est fait obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix ». C'est ce que nous chantons pendant le Triduum sacré. Il convenait éminemment que le Christ souffrit la mort de la croix, pour plusieurs raisons. Et là il n'y a pas cinq raisons, mais sept. Premièrement, et toutes sont belles, on peut pas trier. Premièrement, tout d'abord, pour nous donner un exemple de vertu. Saint Augustin écrit dans son livre, des 83 questions, enfin, saint Augustin aussi se faisait beaucoup de questions. La sagesse de Dieu s'est incarnée afin de fournir un exemple qui nous excite à vivre selon la justice. Or, il importe à une telle manière de vivre de ne pas redouter ce qui n'est pas à craindre. C'est un fait. Certains hommes qui ne craignent pas la mort s'épouvantent de tel ou tel genre de mort. La croix de l'homme-Dieu a donc montré qu'aucun genre de mort n'était à redouter par celui qui entend vivre selon la justice. Car aucune mort n'était plus abominable ni plus redoutable que celle-là. Vous voyez, c'est un exemple auquel vous n'êtes pas pensé, mais c'est vraiment pour nous rassurer devant la mort. Et nous autres prêtres, et enfin, tous ceux qui ont vu des gens mourir, le crucifix en main, eh bien, savent que combien c'est une source de consolation. Même, je me souviens d'une mère de famille qui est morte emportée par un cancer. Et elle avait malheureusement quitté un peu la religion. Elle est morte dans l'Est parisien, enfin à Bobigny, un hôpital très froid, très, très grand, très. Et elle avait vraiment un peu abandonné la religion, quoi. Donc on peut s'inquiéter du salut de son âme. Et elle laissait d'ailleurs trois enfants, trois petits-enfants. Et elle est morte un peu de temps avant Noël. Vous voyez, tout est là pour nous émouvoir. Et elle, bien sûr, se posait beaucoup de questions. Elle avait pas le réflexe d'appeler le prêtre. Et elle est morte au petit matin. Et elle tenait simplement la main de son mari, très fort. Et ses dernières forces, alors que encore une fois, je connaissais les personnes, elle était vraiment loin de Dieu et la famille aussi. Ses dernières forces, ça a été pour tracer un signe de croix sur elle, au petit matin, et puis elle est morte. Ses dernières forces, un signe de prédestination, on peut espérer, quoi, d'espérance, certainement, à la fin de sa vie, la croix, face à la mort. Deuxième raison. Ce genre de mort était parfaitement apte à satisfaire pour le péché des premiers parents. Ceux-ci l'avaient commis en prenant, malgré l'ordre de Dieu, le fruit de l'arbre défendu. Il vous en souvient. Il convenait donc que le Christ, en vue de satisfaire pour ce péché, supportât d'être lui-même attaché à l'arbre de la croix. Vous voyez, il y a un nouvel arbre qui remplace l'arbre défendu, c'est l'arbre de la croix. Restituant ainsi ce qu'Adam avait enlevé. Il paye pour lui. J'ai acquitté, dit le psalmiste, ce que je n'avais pas ravi. Saint Augustin, Adam a méprisé le précepte en prenant le fruit de l'arbre. Donc par désobéissance, orgueil, présomption. Mais ce qu'Adam avait perdu, le Christ l'a trouvé sur la croix. Troisième raison, qui est une raison plus symbolique, enfin encore que, c'est Saint Jean Chrysostome qui nous la donne. Le Christ a souffert sur un arbre élevé et non sous un toit, afin de purifier aussi l'air. La terre elle-même a ressenti les effets de la passion, car elle a été purifiée par le sang qui coulait goutte à goutte du côté du crucifié. Donc la terre recevait le sang du Christ et l'air était même purifié par le Christ qui se mourait. Et à ce propos, Théophylacte, qui est un auteur d'Antiquité, par élevé, enfin, il commente, il était nécessaire que le Fils de Dieu fût élevé. Et commentaire de Théophylacte, par élevé, en tant que le Christ fut suspendu entre ciel et terre, afin de sanctifier l'air qui lui avait été, qui avait sanctifié la terre en la foulant de ses pas. Donc il a sanctifié la terre en étant pèlerin, maintenant il sanctifie les airs. Quatrième raison. Par sa mort, en un lieu élevé, donc le calvaire qui surplombe Jérusalem, et puis au-dessus la croix, le Christ a préparé notre ascension au ciel, donc l'ascension, comme le rappelle Saint Jean Chrysostome. Et Saint Jean, lorsque je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Vous voyez, le Christ nous élève vers le ciel. Cinquième raison. Cela convenait aussi à la complète libération de tout le genre humain. Saint Grégoire de Nice remarque en effet que la croix se partageant d'un centre unique en quatre sens opposés, donc là c'est les quatre points cardinaux, vous voyez, symbolise que la puissance et la providence de celui qui y est suspendu se répandent partout. La croix, effectivement, part dans toutes les directions, qui symbolise, qui annonce la prédication de Jésus et de Jésus crucifié par l'Église dans tout l'univers. Saint Jean Chrysostome, sur la croix, le Christ est mort, les deux mains étendues, afin d'attirer à lui, de l'une, l'ancien peuple fidèle, et de l'autre, ceux qui font partie des nations. Donc, vous voyez, l'universalité de la rédemption annoncée par les mains ouvertes et le signe même de la croix. Sixième raison, c'est le symbolisme de la croix. Donc là, les pères de l'Église en ont donné beaucoup. Comme les Savassonnés, je vais donner simplement je vais les donner, parce que je l'ai annoncé, donc je donne. Bon, la traverse D'après saint Augustin, la traverse donc... Voilà, je lis saint Augustin. « Ce n'est pas sans raison que le Christ a choisi cette mort. Il veut montrer qu'il est le maître de la largeur, de la hauteur, de la longueur et de la profondeur dont parle l'apôtre en parlant de la charité du Christ. En effet, la largeur de ce bois est représentée par la traverse qui y est fixée. Elle figure les bonnes œuvres car les mains y sont étendues. » Les mains sont toujours le signe des bonnes œuvres du travail. C'est pour ça que d'ailleurs dans l'habit du prêtre, la soutane, ça vous intéresse pas, mais je vous dis quand même, il y a les deux parties apparentes sont les mains et la tête. Et les mains c'est pour le travail, et la tête c'est pour l'oraison, la prière, l'étude, l'application à Dieu. Voilà pourquoi aura et labora, quoi, c'est bénédictin tout ça. Bon, c'est le symbolisme de la soutane. La longueur va du sommet du bois à la terre. C'est là qu'on se tient, pour ainsi dire, debout, dans la crucifixion. Ce qui figure la stabilité, stabat mater, et la persévérance attribuée à la longanimité. Donc des vertus qui nous font, eh bien, être forts, fermes, stables dans les épreuves. La hauteur est représentée par la partie du bois qui s'élève au-dessus de la traverse. Donc là où il y a le panneau, l'inscription. La tête du crucifié y fut attachée, suprême attente de ceux qui ont une parfaite espérance. Il est la tête, nous sommes les membres, nous cherchons à atteindre la tête, à rejoindre la sainte face. Là, il y aurait beaucoup à dire aussi sur la sainte face. Enfin, la profondeur comprend la partie du bois qui est cachée en terre. Toute la croix semble en surgir, ce qui symbolise la profondeur de la grâce gratuite. Tout cela est sans mérite de notre part, elle jaillit gratuitement. C'est ça, cette fontaine, cette source jaillissante pour le salut des hommes. Quiconque viendra à moi n'aura plus jamais soif. Voilà. Septième et dernière raison, eh bien, ce n'est plus la figure de la croix, mais c'est sa composition, sa matière. On va retrouver les quatre causes. Ce genre de mort réalisé, donc diverses figures, et voici ce que dit saint Augustin. Donc il explique comment Dieu s'est servi de beaucoup de choses en bois dans l'Ancien Testament. Une arche de bois a sauvé le genre humain du déluge des eaux, l'arche de Noé. Lorsque le peuple de Dieu fuyait de l'Égypte, Moïse a divisé la mer à l'aide d'un bâton. Et terrassant ainsi le pharaon, il a libéré le peuple de Dieu. Ce même bâton, Moïse l'a plongé dans une eau amère qui l'a rendue douce pour abreuver les Juifs, les Israélites qui étaient dans le désert. Etc., etc. Bon, je passe. La loi de Dieu était renfermée dans l'arche du Testament qui, pense-t-on, était en bois. Ainsi donc, le genre humain était amené comme par degrés au bois de la croix. Donc vous voyez, il y a eu des symboles de la croix qui avaient des pouvoirs miraculeux attribués par Dieu. Et les pères de l'Église, ici c'est saint Augustin, ils voient bien sûr une image de la croix. Répondant à l'objection, alors pourquoi pas l'immolation, enfin le glaive puis le feu? L'autel des holocaustes sur lequel on offrait les sacrifices des animaux était fait de bois, comme on le lit dans l'Exode. Et sous ce rapport, la réalité répond à la figure. Ouf. Il n'est pas en effet nécessaire qu'elle s'y rapporte en tout point, sinon la figure serait déjà la réalité. Il ne faut pas chercher dans la figure ce qui annonce la croix du Christ. Il ne faut pas imaginer l'exacte ressemblance, sinon il faudrait chercher une croix, tout simplement. Et ces remarques sont faites par saint Jean Damascène. Toutefois, d'après saint Jean Chrysostome, vous voyez, en lisant saint Thomas d'Aquin, on lit les pères de l'Église. Donc, toutefois, d'après saint Jean Chrysostome, ces sacrifices de l'Ancien Testament représentent d'une manière toute particulière la mort du Christ. On ne l'a pas décapité comme saint Jean, dit-il, ni scié comme Isaïe, donc saint Jean-Baptiste, ni scié comme Isaïe, qui a été scié en deux. Pour qu'il conserve après la mort un corps entier et indivisible. Et ainsi, ceux qui voudraient diviser l'Église n'ont-ils plus de raison ? Oui, un motif trouvé par saint Jean Chrysostome, mais qui est quand même profond. Vous voyez, il ne convenait pas que notre Seigneur Jésus-Christ, perdit l'intégrité de son corps, par respect pour son corps. Corps entier indivisible. Un Seigneur, une foi, une Église. Mais dans l'Holocauste du Christ, le feu de la charité a remplacé le feu matériel. Il a brûlé du feu de la charité. Ennis ardens, un feu dévorant qui consume l'âme, qui désire être tout à Dieu. C'est tout à fait traditionnel. Et combien de fois on voit dans les holocaustes cette réalité du feu de la charité symbolisée par le feu matériel. Et donc on retrouve quand même cette réalité du feu de la charité. Voilà ce que dit Cachetan, un commentateur bien connu. Dieu a frappé le Christ à cause du péché de son peuple. Voilà pourquoi il lui a infligé une foule de peines, et spécialement la peine de la mort la plus ignominieuse. Il maudit le Christ en ce sens qu'il lui fait du mal. C'est la raison pour laquelle on peut dire que le Christ est maudit de Dieu. De même que le Christ est péché, parce qu'il en subit les souffrances et les peines. Vous voyez ? Il est vraiment fait, c'est une autre une objection, il est vraiment fait maudit de Dieu, malédiction pour nous. Il prend nos péchés sur nous. Lui qui est pourtant pur. Voilà. Enfin, je vais m'arrêter parce que il y a encore beaucoup d'arguments à donner. Enfin, on peut se poser une question, la dernière, je vais la traiter en quelques minutes, courage. Est-ce que le Christ a subi toutes les souffrances humaines que nous pouvons subir ? Réponse, non. Le Christ n'a pas subi toutes les souffrances humaines quant à leur multitude d'espèces. Tout simplement parce qu'il y a des sortes de supplices qui sont contradictoires. L'eau et le feu. On peut pas mourir noyé et brûlé, c'est contradictoire. On peut pas se brûler au fond de la piscine et se noyer au fond de la cheminée, c'est pas possible. Par contre, il a souffert tous les genres de morts. Tous les genres de morts, il les a souffert. Et donc, les genres de souffrance, pardon. Voilà. Alors, c'est la question suivante, je vais quand même la traiter un petit peu, parce que juste lire le corpus, parce qu'elle est très, très profonde. Les complices suivront, n'ayez pas peur, vous n'y manquerez pas. Le Christ a bel et bien enduré tous les genres de souffrances. Tout d'abord de la part des hommes qui les lui ont infligés. Il a souffert de la part des gentils et des juifs, des hommes et des femmes même, témoins les servantes qui ont poussé Pierre à renier son maître. Le Christ a vu cela et il en a souffert. Il a souffert aussi de la part des princes et de leurs ministres, de la part du peuple, du bas peuple, du haut peuple. Israël d'en bas, Israël d'en haut. Ainsi que l'avait annoncé le psalmiste. Pourquoi les nations s'agitent-elles en tumulte et les peuples méditent-ils de vains projets ? Les rois de la terre se soulèvent et les princes tiennent conseil ensemble contre le Seigneur et son Christ. Il a aussi été affligé par ceux qui vivaient dans son entourage et sa familiarité, puisque Judas l'a vendu et que Pierre l'a renié. Donc il a souffert de la part de ceux qui l'ont fait souffrir de toutes parts. Deuxième raison, il a donc subi tous les genres de morts, hein, c'est ça l'important. Il a souffert dans tout ce en quoi un homme peut souffrir. Le Christ a souffert en effet dans ses amis qui l'ont abandonné, dans sa réputation, par les blasphèmes qui furent proférés contre lui. Et toutes ces souffrances morales qu'il ne faut pas oublier. Dans son honneur, dans sa gloire, par les moqueries et les affronts qu'il dut supporter, dans ses biens lorsqu'il a été dépouillé de ses vêtements, dans son âme par la tristesse, la déréliction, la fatigue, la crainte, tout ça il l'a pris sur lui, et enfin dans son corps, par les blessures et les coups. Enfin, justement, il a souffert dans tous les membres de son corps. Donc vous voyez, c'est de la part des hommes qui lui infligent, de la part de ce en quoi un homme peut souffrir, souffrance morale et physique, et maintenant, dans les membres du corps, donc les seules souffrances physiques. Le Christ, en effet, endurait à la tête les blessures de la couronne d'épines, aux mains et aux pieds le percement des clous, au visage les soufflets, les crachats, et sur tout le corps les coups de la flagellation. De plus, il a souffert dans tous ses sens corporels, dans le toucher, quand il a été flagellé et cloué à la croix, dans le goût, lorsqu'on lui a présenté du fiel et du vinaigre, dans son odorat, lorsqu'il fut suspendu au gibet en un lieu rendu fétide par les cadavres des suppliciés, le calvaire. Ça sentait pas bon. Dans son oui, lorsque ses oreilles furent déchirées par les blasphèmes et les moqueries, et enfin dans sa vue, quand il vit sa mère et le disciple aimé qui pleurait. Donc, universalité des genres de mort que le Christ eut à souffrir sur la croix. Voilà. Donc, dernier mot, c'est promis. Qu'on se souvienne aussi que le Christ, par obéissance à son Père et par amour pour nous, veut souffrir ainsi. C'est aussi un des mystères à méditer dans la croix, la passion du Christ. La moindre goutte de sang aurait suffi. Il aurait pu s'arrêter quand il le voulait. Il a voulu aller jusqu'au bout. Et cela, afin d'offrir un sacrifice parfait. Et l'agneau s'immole totalement. L'holocauste est total. Le feu de la charité consume totalement la victime. C'était le but. L'œuvre à accomplir. Il s'immole ainsi. C'est vraiment le sacrifice parfait. Le seul capable de nous réconcilier avec son Père. Voilà. Alors nous allons maintenant, chanter les complices.